On n'est à l'abri nulle part. On n'est à l'abri nulle part. Et j'ai attendu quelques jours pour me confier à ce répondeur dans l'attente d'un quidam parmi les amis de Mermet, éduqués au décryptage, qui auraient réceptionné ce message avec la même brutalité de la fatale vérité qui m'éclaboussait. On n'est à l'abri nulle part. La force de l'inconscient est fracassante. Juppé, ministre d'État de l'Environnement, nous confiait dans le malgré lui un slogan testamentaire plus tranchant que n'importe quel slogan environnementaliste connu jusque-là. On n'est à l'abri nulle part. La menace est globale. Voilà un ministère promptement assumé dans l'impuissance à pouvoir l'investir. Et oui, la cause environnementale est souveraine à tout autre. Personne ne sera à l'abri d'une destruction massive planifiée. Juppé, tel Tirésias, nous laissait au bord du chemin dans la parabole aux frontières de l'impensable. Je suggère donc à M. Borloo de faire graver au frontispice du dit ministère « On est à l'abri nulle part » qui devrait nous rendre la vue en mémoire d'un ex-ministre au slogan aussi fulgurant que le temps qui lui fut imparti. Martine.
Salut Daniel. Nous aussi sur Rennes, on a bien compris que le dogme libéral était notre horizon indépassable. Alors voilà, on a envie de clamer dans les rues notre soif de consommer, notre désir d'exploiter des gens, et puis aussi notre envie de travailler plus. Alors pour tous ceux qui seraient intéressés par cette manif de droite qui sera organisée sur Rennes, le rendez-vous est fixé place de la mairie samedi prochain 23 juin à 15h. Et puis voilà. Merci pour tout Daniel. Allez, la fuite en avant continue. Salut.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. C'est un message pour vous informer d'un mouvement de grève sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac plus précisément. Donc c'est la société Les Courriers de la Garonne du groupe Veolia Transport, donc les conducteurs de bus qui sont en grève, les bus, à savoir donc les bus de piste qui embarquent les avions qui peuvent pas venir en passerelle. Les charters, les petits avions, ce genre de choses, et la navette qui fait la jonction entre l'aéroport et la ville de Toulouse. Donc voilà, nos revendications, on demande une augmentation de 150 euros, en sachant que le salaire brut actuel d'un conducteur de bus est de 1300 euros brut, ce qui fait donc environ 985 euros net. Et donc voilà, comme le directeur de l'entreprise nous l'a signifié, le bras de fer est engagé puisqu'il refuse donc toute négociation pour une quelconque augmentation. Voilà, et bien donc c'était Laurent de Toulouse, des Courriers de la Garonne. Merci, au revoir.
Je réagis à la une du Figaro, que je n'achète pas, dirigée par Monsieur Nicolas Bétou, qui officie également sur Europe 1 et sur les télés, sur LCI, etc. Et comme c'est bizarre, juste au moment où il va y passer une loi sur le service minimum dans les transports, on déterre une sombre affaire de retraités qui gagnent de l'argent fou à Taïwan ou je ne sais où, parce que ils aident le pays en question à avoir de bons conducteurs, etc. Bon, je crois que les gars, ils sont en réalité 37. Hein. Ils sont 37, mais c'est une affaire extra. Comme c'est bizarre que des affaires comme ça surgissent à la une des journaux de droite quand une loi va passer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Daniel, bonjour. Bien évidemment, comme la plupart des auditeurs en ce moment, je voudrais moi aussi m'insurger contre la disparition de l'émission Arrêt sur image sur France 5, qui n'est pas victime d'une disparition, mais d'une censure, hein, et de la berlusconisation des médias dont on parle, notamment depuis l'élection de Sarkozy. C'est pas étonnant tout ça quand on sait que Monsieur de Carolis, patron de France Télévisions, est un ami intime de Sarkozy et donc un des chantres de l'UMP. Cependant, je voulais aussi dire aux auditeurs que s'ils veulent réellement être informés et pas intoxiqués ou manipulés, ils ont tout intérêt à continuer à regarder cette émission. et également à s'insurger en masse contre sa disparition, mais surtout à regarder les guignols de l'info, et puis le soir, au lieu de regarder les têtes de PPDA et de David Pujadas, il vaut mieux regarder Plus belle la vie, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, c'était Emmanuel de Carcassonne, très mécontent. Au revoir.
Merci à tous, merci à Emmanuel pour ce message. On reçoit, vous vous en doutez bien, beaucoup de messages qui regrettent, pour regretter, pour déplorer, pour s'insurger, pour gueuler contre l'arrêt d'Arrêt sur Image. Et on a, en principe, j'espère, Daniel Schneiderman en ligne qui va réagir à ce qui vient d'être dit, à ce message. Il n'arrête pas de réagir, hein, Daniel Schneiderman, toute cette semaine. On n'entend que lui, on ne lit que lui. Mais enfin, voilà, c'est quand même pour la fin d'une émission qu'on regarde tous les dimanches et qui nous dispense de la messe. Daniel Schneiderman.
Oui, bonjour. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Daniel. Réaction à ce que dit cet auditeur, censure, berlusconisation, copinage de Carolis Sarkozy.
Oui, tout ça, oui. Alors, juste un point de détail, si vous voulez, parce que il est peut-être pas tout à fait au courant dans le détail, mais quand l'auditeur, le dernier, là, disait que Carolis était un ami intime de Sarkozy, je crois que c'était pas vrai du tout, hein. Les choses sont plus complexes. Carolis est plutôt arrivé à France Télévisions par le clan Chirac. Et je suis pas certain qu'il soit très très bien vu aujourd'hui par Sarkozy, ce qui rend la situation politique de Carolis aujourd'hui plus délicate qu'il n'y paraît. Voilà, mais ça c'est juste un point de détail, c'est pas le sujet.
Berlusconisation.
Bah bien sûr. Alors si vous voulez, depuis que la direction lundi a décidé d'arrêter Arrêt sur Image, moi on n'arrête pas de me poser la question est-ce que c'est politique. Alors c'est vrai que dans un premier temps, pendant quelques jours, si vous voulez. Avant la fin de l'émission, quand ils ont commencé à nous dire « on ne vous donnera pas la réponse avant le 18 juin », moi je me suis dit « tiens, c'est bizarre quand même, le 18 juin c'est le lendemain du 17, le 17 c'est le second tour des législatives, tiens par hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ?» Finalement, si vous voulez, à la réflexion, je ne pense pas que ce soit directement politique. C'est-à-dire, pour être très clair, je ne pense pas que quelqu'un dans un palais, à l'Élysée, n'importe où, ait appelé Carolis en lui disant « vous supprimez Arrêt sur Image ». En revanche, ce que je pense qui est vrai, c'est que, en gros, depuis l'élection de Sarkozy, il y a un air du temps, si vous voulez. Il y a un air du temps qui est au décomplexé. Il y a un air du temps qui est au, finalement, pourquoi se gêner ? Il y a un air du temps qui est au « mais pourquoi se prendre la tête ?» Et je pense que quelque part, Arrêt sur Image a été victime de cet air du temps-là, quoi. C'est-à-dire que, comment vous dire, l'émission, elle a toujours énervé les dirigeants de France Télévisions, depuis qu'elle existe. Depuis qu'elle existe, les dirigeants de France Télévisions, d'un côté, ils ont Arrêt sur Image sur France 5, et puis de l'autre côté, ils ont la 2, la 3, les présentateurs du 20h, les directeurs de l'info de la 2 et de la 3, qui viennent gueuler en permanence en disant « mais ils nous ont encore massacrés dimanche dernier ». Bon, et donc, depuis le début, si vous voulez, on sent bien qu'on suscite de l'énervement.
Ça, c'est votre boulot de susciter de l'énervement.
Non, mais bien sûr, et notre boulot, c'est aussi de le gérer, si vous voulez. Bon, et donc, depuis le début... mais qu'est-ce qui se passait avec les directions précédentes ? Les directions précédentes, je pense, qu'elles étaient allées, peut-être plus que la direction actuelle, chercher aussi le son de cloche des téléspectateurs. Et moi, ça m'a toujours été dit par les directeurs généraux de France 5, quand ils faisaient des réunions de téléspectateurs, dans lesquelles il y avait beaucoup d'enseignants, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants qui regarderaient sur Image, pas que des enseignants, mais il y en a beaucoup. Je veux dire, les gens leur disaient toujours, il y a une émission à laquelle il faut pas toucher, c'est Arrêt sur Image. Il y a une émission qui est emblématique du projet de chaîne de la connaissance, du projet de chaîne du savoir, c'est Arrêt sur Image. Et je pense que c'est pour cette raison que toutes les directions précédentes avaient résisté, je dirais, aux doigts qui les chatouillaient, c'était finalement avait respecté notre indépendance et notre petite extraterritorialité dans le monde de la télé.
Mais alors on dit, Daniel, oui. on dit, mais de toute façon, une émission n'est pas éternelle, Schneiderman n'est pas propriétaire de l'antenne, cette émission c'est une vieille émission, qui a 12 ans, j'en connais de plus anciennes.
Ça vous rappelle un discours que vous avez entendu il y a pas longtemps.
Hein, c'est un numéro qu'on connaît par cœur, bien sûr. Et on dit, voilà, on va remplacer par une autre émission qui va faire à peu près la même chose.
Non, mais voilà, alors justement... Là, je suis content que vous me posiez la question. Je pense qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Si la direction de France 5 avait dit arrêt sur image, voilà, c'est vieux, ça a 12 ans, c'est usé, on n'aime plus les couleurs du studio, on n'aime pas la tête du présentateur, on va faire mieux. Ok, moi je disais rien. Je veux dire, je ne suis pas propriétaire de ma case, je ne suis propriétaire de rien. Je suis pas animateur à vie, je veux dire, je reconnais à une direction de chaîne le droit de faire sa grille. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le fait qu'on nous supprime, mais on ne met rien d'équivalent à la place. C'est-à-dire que la chaîne, France 5, s'assoit sur une des obligations de son cahier des charges, qui est de faire de l'éducation aux médias, du décryptage de médias et de l'éducation à la lecture de l'image. Daniel, c'est dans son cahier des charges. Mmh. La chaîne France 5 a été créée pour ça. En 94, quand elle a été créée, au cœur de ses missions, il y en avait plusieurs, il y en avait trois ou quatre missions essentielles. Il y avait notamment la mission de travailler à l'emploi, enfin de favoriser l'emploi. Bon, celle-là, elle est aussi un peu passée à la trappe. Mais il y avait la mission d'apprendre aux gens à lire les images de télévision. Mmh. Bon, donc on est dans ce cas de figure. Et tout d'un coup, parce qu'il y a une direction qui fait son caprice et qui a son petit moment d'énervement, si vous voulez... la chaîne, dans une indifférence quasi générale jusqu'à hier, parce que hier il y a eu une réaction très forte qui était celle de la FSU, qui est le premier syndicat enseignant français, qui a demandé à France 5 de remettre l'émission dans sa grille. Enfin, jusqu'à hier, on avait une chaîne publique qui s'asseyait sur son cahier des charges avec une totale allégresse. Le CSA doit être en train de se reposer de ses fatigues des présidentielles. Voilà.
Daniel Schneiderman, ce qu'on remarque quand même dans cette affaire, c'est que les confrères, nos confrères, ne vous soutiennent pas trop.
Ça vous étonne ?
Non, moi, ça m'étonne pas, mec. Il faut le dire aux gens, pourquoi ?
Écoutez, les journalistes, c'est compliqué, si vous voulez. Je pense que les journalistes, c'est compliqué. Je pense que un journaliste, normalement constitué, quand on ferme comme ça un espace de libre expression... Je pense que ça lui fait forcément un peu mal au ventre. Donc, je pense qu'il y a une grosse majorité de journalistes qui ressentent un profond malaise, si vous voulez, devant la disparition d'arrêt sur image. Mais en même temps, un journaliste, ça a une autre caractéristique, c'est que ça déteste être critiqué. Ça déteste devoir rendre des comptes. Ça déteste devoir répondre à des questions. Un journaliste, ça pose des questions, mais ça déteste devoir répondre à des questions. Et donc, bien entendu, l'émission les énervait aussi. Et je dirais au premier chef, puisque l'émission faisait sur eux, les journalistes, le travail que eux, ils font sur tout le monde. Ou qu'ils devraient faire sur tout le monde. Que bien souvent, malheureusement, ils font pas. Mais que en tout cas, ils devraient faire sur tout le monde. C'est-à-dire investiguer, interroger, poser des questions, interpeller, enquêter, recouper. Voilà. Et alors qu'on fasse ça tout d'un coup sur eux, qu'on aille prendre le présentateur du 20h de France 2 et qu'on lui demande « Mais pourquoi ce sujet si important, là, il n'est passé qu'à 20h19 en 45 secondes, alors qu'il aurait peut-être mérité l'ouverture ?» Voilà, beaucoup d'entre eux avait du mal. Donc, vous savez bien les surnoms qui ont couru sur nous, arrêt sur image, les boeufs carottes, les procureurs, les...
Alors justement, les boeufs carottes...
Qui ont couru dans les médias, milieu des médias.
Oui, oui. Alors justement, les boeufs carottes et les procureurs, etc., il y a bien plus boeufs carottes et bien plus procureurs que vous. Depuis des années, on dit, si Schneiderman et son émission dérangeaient en quoi que ce soit la télé le virerait. Est-ce que, enfin, c'est arrivé?
Je m'en félicite pas, hein. Vous savez, franchement, je m'en félicite pas. Je pense honnêtement qu'on les dérangeait beaucoup. Je sais bien que beaucoup de vos auditeurs, vous avez des auditeurs qui sont des lecteurs assidus de Serge Halimi, qui ont tous vu en boucle les films de Pierre Karl et qui pensent ça. Simplement, moi, la différence, si vous voulez, c'est que les gens de la télé, je me les farcis de l'intérieur. Et nous, on passait notre semaine à les appeler, les gens des médias, pour enquêter, pour poser des questions. Et on savait bien les réactions au bout du fil quand on les appelait, les réactions d'énervement, toutes les générations d'enquêteurs qui se sont succédés à Arrêt sur Image pourraient vous en parler, des pétages de plomb au bout du fil, des téléphones raccrochés, des boycotts, des menaces, des bouderies, mais qui vous autorise à me poser cette question? Donc, moi, je sais, si vous voulez, de l'intérieur, depuis 12 ans, à quel point on les énervait. Bon, on était sur un fil, on faisait de l'équilibre.
Que devient, Que devient l'équipe? Que devient votre équipe?
Bah, écoutez, d'abord, on est dans un temps un peu particulier, c'est-à-dire que là, l'histoire est en train de se faire. Elle est en train de s'écrire. Je pense qu'elle n'est pas écrite. On est dans des jours où l'histoire est en train de s'écrire. Quand vous avez comme ça, le principal syndicat d'enseignants qui vient dire à la chef de la connaissance, vous faites pas votre boulot. Je pense que l'histoire n'est pas écrite. Le CSA n'a pas encore dit s'il acceptait que France 5 s'asseye sur son cahier des charges. Bon.
Ah, il peut y avoir un retour en arrière.
C'est ce que je veux vous dire, Daniel, quand je vous dis l'histoire n'est pas écrite.
D'accord.
Vous voyez, l'histoire est en train de s'écrire, là. Un instant, nous parlons, là, maintenant.
Bon,
voilà. Après, j'en sais rien. Quand elle est en train de s'écrire, voilà, elle est en train de s'écrire, on sait pas. Alors, si jamais, par extraordinaire, on reprenait sur France Télévisions, ça ne pourrait être que dans des conditions de changement radical, hein, parce que on a rarement vu une direction de médias revenir comme ça en arrière. Bon, on verrait. Après, nous sommes en train, avec le producteur, de chercher des diffuseurs alternatifs, c'est-à-dire d'autres chaînes. Évidemment, pas des chaînes hertziennes, parce qu'aucune ne voudra s'encombrer des emmerdeurs d'arrêt sur image, mais Dieu merci, maintenant, il y a quand même pas mal de chaînes dans le paysage, les chaînes de la TNT. On regarde aussi du côté d'Internet. Je veux pas aller sur Internet tout seul, si vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui viennent sur mon blog, sur le Big Brand Blog, et qui disent, mais venez donc la faire sur Internet, on est tellement libre. Oui, mais moi, je veux pas. Moi, je ne veux pas travailler pour des convaincus. Vous voyez, arrêt sur image, je veux la faire pour des gens qui ne sont pas convaincus. C'est-à-dire, je veux aller les chercher, les gens. Voilà. Et sur Internet, on peut faire beaucoup de travail intéressant, mais c'est les internautes qui font la démarche d'aller chercher l'information. Ce qui fait que, fatalement, vous travaillez un peu pour les convaincus. Alors, moi, je pense qu'il faudra, si on trouve un autre système de diffusion, il faudrait qu'il y ait à la fois un peu de médias traditionnels comme une télé et de l'Internet. Il faudra inventer un truc, une architecture. Et puis, je vais vous... On est en train de regarder sérieusement du côté des chaînes étrangères.
Voilà. C'est ça. Alors quoi, le Suisse?
Bah, des chaînes étrangères. Il y a des chaînes étrangères francophones. Si vous voyez un peu votre carte de France, il y a des pays francophones qui entourent la France, qui sont dotés de chaînes de télévision. Et je ne vous parle pas de la Principauté de Monaco.
D'accord.
Et ces chaînes pourraient être intéressées à diffuser, j'en sais rien. Moi, ce serait. Après tout, si vous voulez, maintenant, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, quand on veut vraiment des informations, il faut aller lire les journaux suisses. Bon. non, mais c'est vrai.
Oui, tout à fait. Le temps,
bon,
etc.
Les images circulent.
Bon, en attendant, alors ce qui se passe aussi quand même, le phénomène que nous on a connu l'année dernière, c'est le soutien des téléspectateurs pour ce qui vous concerne et qui sont en train de signer une pétition d'arrache-pied, là, ça tourne.
Non, mais ça c'est très important.
Ça vous console, ça soutient.
Pour être tout à fait franc, si vous voulez, l'ampleur de la mobilisation des téléspectateurs m'a surpris. Je pensais pas que ça, voilà, parce que si vous voulez, quand vous êtes dans l'année, les téléspectateurs, c'est quoi? C'est un chiffre qu'on vous donne tous les lundis. On vous dit, tiens, t'as fait tant, t'es un peu en hausse, t'es un peu en baisse. Bon, puis c'est des gens que vous rencontrez dans la rue, qui sont sympas, qui vous disent en 30 secondes pour pas vous déranger, qui vous disent c'est super ce que vous faites. Bon, mais là, je sais pas, Daniel, si vous êtes allé voir le Big Bang Blog.
Oui, bien sûr, on a jeté un œil, bien sûr.
Faut jeter les deux, parce que on doit en être à 2000 ou 2500 messages depuis lundi, mais des messages, des longs messages où les gens racontent que représentait cette émission pour eux, le dimanche, en famille, les discussions entre générations, les engueulades, les débats qui se poursuivaient, et à quel point cette émission, mais moi je vous jure, je l'avais pas mesuré, à quel point cette émission est entrée dans leur vie, quoi. Est entrée dans leur vie. Et les gens nous racontent tout ça en longueur. Et presque plus que le nombre. Ah, je suis très content qu'il y ait 40 000 ou 45 000 aujourd'hui signatures. Mais presque plus que le nombre, je dirais que c'est la teneur de ces témoignages qui me fait penser. Moi, je crois beaucoup aux mots. Je crois beaucoup aux textes. Je pense que les mots nous guident. Je pense que les mots guident les actes. Je pense que les mots guident les comportements. Et quand on lit ces messages, on ne peut pas se dire l'émission va s'arrêter, quoi. Je veux dire, on ne peut pas croire que cette attente reste suspendu.
C'est voilà. Ce qu'on souhaite en tout cas, hein, c'est que ça continue. Big Bang Blog, donc en trois mots. Merci Daniel Schneiderman et tenez bon la rampe. Salut.
C'est gentil, hein, merci à vous.
Voilà, on continue avec les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. Si j'y suis au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, une émission, la semaine dernière, c'était la manif de droite. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est une ambiance un peu voisine. Auparavant, quelques messages parmi ceux que vous avez laissés encore donc dans la boîte vocale de la basse. Si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Voilà, je m'appelle Aurélie, j'habite Brest, je suis née en août 1969 et jusqu'à mercredi soir, je n'avais qu'une idée assez vague de ce que pouvait signifier la France d'avant mai 68. Et puis mercredi soir, je suis allée au studio, c'est un cinéma brestois où La Sentinelle, une association de cinéphiles, programmait un film de Bergman que je ne connaissais pas et qui s'appelle Monica. Je ne me suis pas remise encore du choc que j'ai ressenti devant toute cette beauté. Après la projection, j'ai appris que ce film était une date dans l'histoire du cinéma, mais qu'à sa sortie, il avait été au mieux ignoré, au pire taxé de pornographie, avant que Truffaut et Godard ne le sauvent de l'oubli. Alors je crois que j'ai compris ce que c'était la France d'avant mai 68. C'était une France qui considérait la nudité radieuse d'Harriet Anderson comme une offense à la morale, et qui collait sur le génie du jeune Bergman l'étiquette de la pornographie. Alors, je suis bien contente de n'avoir pas connu cette France-là. Salut.
Bonjour Daniel, merci pour ton émission. Éric, près de Paris. Je suis protestant évangélique et je viens d'écouter l'émission sur les chrétiens évangéliques sionistes. Et j'avoue que j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout de l'émission. Mais bon, j'ai bu la coupe jusqu'à la lie et je suis encore atterré par ce que j'ai entendu. Ces chrétiens brandissent la Bible comme fondement de leur approche sur le problème du Moyen-Orient, et ce faisant, ils font preuve, en fait, non pas d'une interprétation erronée de la Bible, mais tout simplement d'une méconnaissance grave. Parce que même sans lunettes, ils constateraient que si effectivement la Bible affirme que la terre de Palestine a été donnée à Abraham et conquise par Josué entre le 15e et 13e siècle avant Jésus-Christ, ils auraient dû également voir que la Bible affirme que c'est Dieu qui l'a retiré au peuple juif, pour une part au 8e siècle avant Jésus-Christ pour la partie nord par les Assyriens, et pour une part au 6e siècle avant Jésus-Christ pour la partie sud pour les Babyloniens, par les Babyloniens. Cette même Bible affirme que c'est à nouveau Dieu qui permet par un édit de Cyrus en 539, avant Jésus-Christ également, le retour des exilés juifs qui avaient été placés en Mésopotamie. Puis à nouveau en 70 après Jésus-Christ, la destruction du temple de Jérusalem par l'invasion militaire romaine et la dispersion des juifs. Bref, je dis tout cela parce qu'en examinant ces points de l'histoire biblique, on devrait faire preuve d'un peu d'humilité avant de brandir une Bible comme source de ses positions. Et pourtant, j'y suis attaché à cette Bible. Je pourrais, à la lumière de ce que je viens de dire, considérer à contrario que la présence des Palestiniens relève également de la volonté de Dieu et qu'ils ont par conséquent le droit à un État. Pour conclure, je veux dire par mon intervention que tous les chrétiens évangéliques ne partagent pas les opinions de ces chrétiens sionistes, que beaucoup de ces chrétiens évangéliques dont je fais partie sont attachés à la laïcité, à une absence totale de lobbying, sont également attachés à une absence de parti politique évangélique. Là aussi une véritable aberration. Et par conséquent, même si comme beaucoup je garde une tendresse particulière pour le peuple juif, je ne peux pas avoir en tant que chrétien attaché justement à la Bible un avis clair sur les positions politiques du Moyen-Orient.
Bonsoir, c'est Armand de Paris. Pour faire suite à l'auditrice qui a lu ce beau poème de Lamartine et pour conclure les deux dernières émissions consacrées au fondamentalisme, je voudrais vous dire ce poème de Victor Hugo. Ni Bible, ni Coran, ni Talmud, je voudrais que l'homme renonçât à montrer les dictées faites à Pierre, à Paul, au Christ, au Prométhée. Je voudrais laisser Dieu tranquille ce grand ciel, temple immense auquel nuit le temple officiel, suffit à ce grand Dieu. Je rêve le chômage du prêtre, de l'abbé, du druide, du mage. C'était Victor Hugo et Armand de Paris. À bientôt. Ciao.
Oui, il y a un appel urgent là, à tous ceux qui écoutent là-bas, si j'y suis, en Corse, à l'appel des associations, des organismes politiques, syndicales, culturels et citoyennes. Le réseau Droit Paysanne appelle tous ceux et toutes celles d'ici et d'ailleurs à venir samedi 23 juin, donc demain matin, à partir de 10h, sur le plateau de Roanne, commune de Cauge, Corse du Sud. En soutien à la famille Seigne qui exerce le métier de paysan et qui risque d'être expulsée. Venez nombreux à la Mérindelle, on fait une genre de Mérindelle à partir de 10h, donc emmenez le spoutine, pour dire haut et fort que la terre n'est pas une marchandise. Et qu'il n'y a pas de pays sans paysans. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, téléphonez au 04 95 26 69 72. Donc voilà, tous ceux qui croient que la terre n'est pas une marchandise, venez nombreux. C'est une famille de paysans qui risque d'être expulsée, donc vraiment, il faut faire pression là-dessus. Merci, merci à toi Christophe, merci et Daniel, à presto.
Je suis donc dans une joyeuse ambiance, à Saint-Paul, sur l'île de la Réunion, et le personnel du Jumbo Score est en grève, et ce, dans plusieurs magasins Jumbo de l'île. Ça a l'air très suivi, donc voilà, toutes les revendications demandées ont été refusées les unes après les autres. Donc le personnel est en grève et franchement, je suis très contente parce que ça fait plaisir de voir que les gens ne se laissent pas faire. Et dans ces temps difficiles, je trouve que ça fait du bien de voir ça, voilà.
Mais qu'est-ce que je suis chiante. Mais quelle vieille conne. Pourquoi est-ce que je tiens tellement à parsemer votre répondeur de mes petits cailloux de poésie, là? Mais pourquoi? Est-ce que je suis un espèce de petit poussé à la recherche de sa jeunesse ou je ne sais quoi? Ou est-ce que j'essaye de distiller un contrepoison à toute la méchanceté humaine? Quoi qu'il en soit, Mermet et Humbert, qui sont mignons, mais qui sont mignons, mais qui sont indulgents. Merci les gars, merci mes petits gars.
Et nous vous rappelons que pour deux t-shirts subversifs, nous vous offrons un abonnement d'un an au guide Alter Conso.
La radio du futur, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Boris Guillaume et Antoine, les surréalistes, la radio du futur. Attention, attention, ceci est une émission humoristique, ceci est une émission humoristique, ceci est une émission humoristique, ceci est une émission humoristique.
Ah mais une dépêche m'apprend en instant une bien triste nouvelle. Le président Nicolas Sarkozy est mort. Nous nous rendons tout de suite à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, où se trouve notre correspondante permanente en banlieue ouest, Sonia Dumarquis. Sonia, c'est donc officiel, le petit père de la nation n'est plus.
C'est officiel, Boris, je me trouve actuellement sur la place Balkany, face à l'hôpital, et d'ici je vois la fumée noire sortir des cheminées du bâtiment. Il n'y a aucun doute, à 87 ans, alors qu'il entamait à peine son 8e mandat, le phare de la pensée nous a quittés. Autour de moi, la tristesse domine. On trouve ici tous les fidèles de Nicolas Sarkozy, que son âme repose en paix. Sa veuve, bien sûr, Marine Sarkozy, dans sa traditionnelle robe bleu, blanc et rouge. Le multimédiateur Arnaud Klarsfeld est là aussi, soutenu par Stevie, le ministre des coiffeurs. Je vois aussi des représentants des cultes qui sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a tant fait pour la prospérité de leur entreprise. Les catholiques, les musulmans, les israélites, les témoins de Jéhovah, les raéliens, les chiites, adventistes, les pentecôtistes, presbytériens, les bouddhistes, lucifériens, les animistes fondamentaux, ils sont tous là. La presse est également représentée avec les présidents des conseils d'administration de Dassault, Lagardère, Bouygues, sans oublier les paparazzi officiels de Paris Match et de VSD. Je me dirige tout de suite vers les laboratoires Ron Hubbard qui jouxte l'hôpital. Nous allons maintenant guetter la fumée rouge qui annoncera que le successeur de Nicolas Sarkozy, sa pensée nous guidera à jamais, est prêt à reprendre le flambeau.
Merci Sonia, et à tout à l'heure. Alors en attendant la venue du successeur, du grand leader de la patrie, revenons un peu sur la carrière exceptionnelle de Nicolas Sarkozy, que sa mémoire soit glorifiée sur 1000 générations. Nicolas Sarkozy, la savane se tait devant lui, était comme chacun le sait le fils spirituel de Charles Pasqua, l'un des principaux architectes de la bananière de la France du XXe siècle. Une différence majeure tout de même entre ces deux grands leaders. Si pour Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, Nicolas Sarkozy, le soleil pâli en sa présence, c'est lui posé en leader qui décide, entraîne et assume, comme il l'a écrit dans le quatrième des 72 volumes de ses mémoires, entamé en 1995. Trois mots pour résumer la philosophie de l'action du président Sarkozy, l'homme qui fait de l'ombre au gratte-ciel. fermeté, efficacité, simplicité. Le président a toujours insisté pour parler aux Français dans un langage qu'ils comprennent, pour réduire l'écart qui se creusait dangereusement entre les élites et le peuple. Quand ses prédécesseurs parlaient de fracture sociale ou encore de fracture numérique, lui était déjà revenu à la fracture du tibia. Efficacité, quand pour résoudre une bonne fois pour toutes le problème de l'insécurité chez les peuplades indigènes de la périphérie, le chef de l'État n'a pas hésité à sous-traiter la gestion des zones sensibles de banlieue à une société de mercenaires sud-africains. Une méthode qu'il a aussi appliquée avec succès dans sa politique de professionnalisation des médias. C'est lui, grâce lui soit rendue, qui a définitivement fait sortir la presse française de l'obscurantisme militant dans lequel elle se complaisait jusqu'à la fin du siècle dernier. Écoutez l'analyse de Jean-Pierre Elmacache, le chef de la cellule communication de l'Élysée.
Nicolas Sarkozy a su moderniser la presse française. Les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, mais c'est au début du XXe siècle que le virage a été pris. L'une des premières radios nationales appartenait déjà à un fabricant de missiles de renom. Eh bien, quand Nicolas Sarkozy était ministre des Finances, la quasi-totalité de la presse écrite est passée sous le contrôle du groupe fabricant les avions capables de transporter les missiles. Si l'on ajoute à cela que la première chaîne de télévision appartient depuis presque 60 ans maintenant à l'entreprise de bâtiment chargée de reconstruire, après le passage des bombardiers, la boucle est bouclée. Les journalistes sont devenus à ce moment-là des acteurs à part entière de l'économie. La presse au service de l'entreprise, l'entreprise au service des actionnaires.
Et nous retournons tout de suite à Neuilly. Sonia, où en est-on sur place? Y a-t-il du nouveau?
Oui Boris, toujours beaucoup d'émotions ici avec il y a quelques minutes le dernier hommage rendu par la garde prétorienne du chef de l'État. Les 7000 gardes du corps se sont fait harakiri devant le perron de l'hôpital en hommage à leur leader. Et puis la chorale des vétérans de la guerre du Mali s'apprête à interpréter l'hymne national, un hymne que Nicolas Sarkozy, le Mozart du bon temps, avait composé lui-même. Une sorte d'ultime message, donc beaucoup d'émotions en perspective, on l'écoute. Sans douter, c'est bien le clone de Nicolas Sarkozy, béni soit son ADN, qui assumera désormais les fonctions laissées vacantes par son modèle. Il vient de faire son apparition à la porte du laboratoire, un clone en tout point semblable à l'original, 1m90 pour 85 kg, les yeux gris acier, la peau hâlée de l'aventurier que rien ne peut effrayer. Une démarche assurée, on se réjouit de retrouver un Nicolas Sarkozy frais et énergique, comme lors de son premier et mémorable quinquennat. Que sa semence soit honorée, Nicolas Sarkozy est mort, vive Nicolas Sarkozy 2.0.
Merci Sonia. Un mot enfin de la dernière mesure prise par Nicolas Sarkozy. Einstein était un nain à côté de lui. Mesure qui sera sans doute mise en application dès demain matin en son honneur par le ministre freelance de l'Emploi. Il s'agit du projet PIR pour plan pour une immigration recyclable. Je vous en rappelle les grandes lignes. Les employeurs pourront désormais se débarrasser des immigrés usés dont ils n'ont plus l'utilité dans des poubelles jaunes prévues à cet effet. La police fera le ramassage tous les mardis en bas des immeubles de bureaux. Les immigrés bien triés seront recyclés vers d'autres types d'entreprises. Mais attention à faire convenablement le tri sélectif. Si des immigrés trop abîmés se glissent parmi les immigrés jugés recyclables, ces derniers seront contaminés et finiront eux aussi à la décharge. Une dernière fois, le président a fait preuve de sa volonté de rendre les chefs d'entreprise plus citoyens. C'est en quelque sorte un idéaliste qui nous quitte.
Vous écoutez Radio Cortex. Pipe lecteur principal, cabine focale, compresseur à focal, casque sur l'œil, radio projet, radio actif, lunettes à cartilage, embarquement immédiat, ça le lève hors face, monter le son des DI, lever la moelle, ça braille dans l'extase, écoper la friture, vriller les écoutilles, élinguer la zone. Loin des huppes du trône, mon vaisseau fantôme, mal dit la croque, ne tenait la baraque, trois fallueux. Conspiration sonore, mutinerie au larsen, ça crache dans les wedges pour les oiseaux de nuit, j'estampe les températures, Louis. M'ajouter des crinières, cravate pour parler, insoumis des pixels, venteur de décibels. C'est ma programme sale, en rotation sur les montagnes du Pacifique. Hip-hop, hop, ma musique vénéneuse et barrée au cap sud. Allô, papa, les gars, plus j'y sors, vous écoutez, raconte. Prêt à
couler au triangle des Bermudes. Ailleurs fait des hanches, mais sœurs d'envergure. Tassés sur le tard, souffrir connu comme ici, leur tête toute dure. Pirates de l'ombre, sortez de l'ombre. Vous écoutez bien la future sur les ondes. Sortez de l'ombre, sortez, sortez, sortez de l'ombre.
Ça crache dans les wets, surprise et dents dans les caves. Mais ce comme ici, récupère la barre du comptable. Ça crache dans les wets, j'ai la barre qui s'échappe. Vous écoutez Radio Cortex, la radio pirate.
Perdu en haute mer, à l'air de rien. Révolutionnaire, thermidor bien, l'alambic monte aux civières, sacre du vulgaire, sur les radios corsaires, des vaisseaux hertiens, les cervelades viennent du gruyère. L'artère est mon fil conducteur, j'invective des mots carleurs, sur la cime des antennes que j'enroule d'un diadème, je brûle les ondes fréquences persiennes, radio du aérien, vous écoutez Radio Cortex, avec le vide dans le coin de la cible, des flèches dans le chasuble, on recherche Aristarque, Wanted, dans les bars. L'homme qui place le soleil au centre de la terre, les rayons dans les artères, vous écoutez Radio Cortex, cardio viscère, corto maltex, c'est ma programme abyssale, c'est les singles du un siècle, et c'est au magma qu'on forge les galettes. Vous écoutez Radio Cortex.
La pêche sportive serait-elle menacée? Conséquence de la multiplication des patrouilles maritimes au large des côtes africaines, les pirogues de clandestins se font rares le long de nos côtes. Au grand dam des amateurs de pêche aux réfugiés, la Fédération sportive de pêche au noir demande un moratoire sur les patrouilles européennes. Elle dénonce également la concurrence déloyale des bateaux-usines affrétés par les entreprises du bâtiment et de la restauration. Il faut arrêter de pêcher n'importe qui, n'importe quand, affirme le porte-parole de la FSPN.
C'est une espèce, une magnifique espèce, très recherchée, trop peut-être, entre guillemets, trop recherchée. Nous, ce qu'on voudrait pour que la raréfaction constatée, on puisse l'endiguer, qu'on demande un arrêt total de la pêche pendant la période de reproduction. Le deuxième point, eh ben évidemment, c'est le respect des quotas. Il y a des quotas qui ont été décidés par les organismes internationaux en fonction des ressources constatées. Donc, il s'agit de faire une pêche raisonnable et durable sur cette espèce. Et bon, il serait comme de bon ton qu'il puisse y avoir une grande table ronde sur le sujet pour en débattre et arriver à des mesures qui soient pertinentes pour tout le monde.
57% des Français estiment que l'insécurité est un phénomène qui ne cesse de s'aggraver. C'est le résultat d'un sondage publié aujourd'hui par le quotidien Métro. Pour 39% des personnes interrogées, c'est plutôt le sentiment d'insécurité qui s'accroît. 21% estiment que c'est le sentiment des médias qu'il y a un sentiment d'insécurité qui mériterait un sondage. Et 14% que ce sont les actionnaires des instituts de sondage qui ont le sentiment que les médias seraient prêts à payer cher pour publier des sondages sur le sentiment d'insécurité des Français. Alors sachant que 8% des gens ont tendance à se sentir en insécurité quand Ipsos s'appelle chez eux au cœur de la nuit ou quand quelqu'un s'approche d'eux d'un pas décidé avec ou sans micro, calculez le pourcentage de personnes qui contribuent à la bonne santé économique des médias et des instituts de sondage et envoyez votre réponse à Radio Futur, 3 places des radiodiffuseurs rentables Paris Cedex ou par email à 99 centimes d'euros le mail. Selon une étude assez chère commandée par notre service commercial, 39% des auditeurs préfèrent utiliser l'email. Les 100 premières personnes à répondre gagneront des lacrymos de poche de la marque la plus plébiscitée.
La bourse vous est présentée par les missiles Thales. Thales, la croissance le vaut bien.
La bourse de Bruxelles est en hausse de 2,4 points à l'ouverture. Une tendance portée par les très bons résultats du français Acedic Corporation. L'entreprise de traitement des chômeurs récolte ainsi les fruits de sa politique dynamique de radiation qui a entraîné une hausse considérable de son bénéfice net. Les hôpitaux de Paris sont en légère hausse également, profitant de la délocalisation des tuberculeux vers les CHU de province. Notons que le résultat des hôpitaux de Paris aurait été meilleur sans le report par le Parlement du projet de loi autorisant les médecins à réclamer les bulletins de salaire de leurs clients avant admission. Mais les investisseurs restent confiants. Mauvaise journée, par contre, pour Bouygues Liberté. L'entreprise de construction de prison pâtit de la grâce présidentielle accordée hier à 15 000 prisonniers politiques russes. Bouygues Liberté a d'ailleurs annoncé son intention de porter plainte contre Amnesty International pour entrave à la loi du marché. C'était Jean-Pierre Paillard, à la Bourse de Bruxelles, pour le Journal du Futur.
Enfin, sachez que le dernier fumeur en liberté a été abattu cette nuit. Le terroriste qui avait trouvé refuge au sommet du Mont Blanc avait été repéré il y a 2 jours par le satellite européen Geos, alors qu'il allumait une cigarette sans préservatif infrarouge. Le ministre de la Santé intérieure a dû interrompre ses vacances à La Havane pour autoriser le GIGN à appliquer la loi sur l'éradication des fumeurs sauvages. L'homme était un père de famille de 36 ans. Ses 3 enfants ont été abattus ce matin en application du principe de précaution.
Superstition, moralisation, réflexion, dévotion, prosternation, génuflexion, purification, confession, soumission, option, absolution, sanctification, ablation de réflexion. Malédiction, inquisition, intimidation, suggestion, punition, version, extrême-onction, décomposition, expiation, destruction, machination, conjuration, intoxication, possession, régression, père, patrie, patron, nation, consommation, manipulation, extorsion, pollution, compromission, domination, interpellation, subversion, transgression, fonction, déportation, dépopulation, délation, attention, attention, père, patrie, patron, friction, insoumission, vocifération, digression, désertion, action, libération, élimination, crispation, perdition, révolution, exclamation, manifestation, conception, suggestion, mission, libération, consécration, création, émotion, père, patrie, patron, père, patrie, patron.
Étonné que vous n'ayez rien de mieux à faire que d'écouter ce journal du futur présenté par le groupe d'intervention surréaliste, nous continuons. Mais attention, à l'attention du CSA et de la DRH de Radio France et de quelques auditeurs décomplexés, ceci est une émission humoristique. 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 Est une émission humoristique.
Bonjour à tous, on commence ce journal avec ce cri d'alarme lancé par la Fédération européenne des marchands d'armes. Le secteur affiche pourtant une santé insolente, grâce notamment à la pérennisation des conflits sur le continent africain. Mais les experts sont inquiets. La demande pourrait chuter dans les années à venir, faute de combattants. Explication Philippe Grosjean.
Les marchands d'armes seraient-ils victimes de leur succès? Alors que les conflits ne cessent de se multiplier sur la planète, les acheteurs se font de plus en plus rares. Pourtant, l'argent ne manque pas, mais l'amélioration des performances meurtrières des produits risque d'entraîner une baisse dramatique de la demande. Serge Wolfowitz, porte-parole de la Fédération européenne des entreprises d'armement.
Nous avons été trop gourmands, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas su anticiper l'impact de notre croissance exponentielle sur le marché et aujourd'hui, il faut revoir notre politique marketing pour ne pas répéter les erreurs commises jusqu'à présent. Pour vous donner un exemple, sur un simple conflit entre éleveurs et agriculteurs, comme nous l'avons connu au Niger le mois dernier, l'offre la plus adaptée aux deux parties en présence était-elle vraiment les batteries de lance-missiles à tête chimique? Dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il est sain que nous nous posions la question.
Une position que partage l'organisation Non à la guerre qui tue trop de gens. Son président Bernard Chevalier appelle les gouvernements à plus de responsabilités. Attention à ce que vous vendez et à qui vous le vendez.
Ce que nous souhaitons, c'est donc une reconnaissance d'un certain nombre de principes dans le commerce des armes. Il ne s'agit pas de limiter la fourniture d'armes et de munitions dans des zones où les droits de l'homme seraient largement bafoués. Ce que nous voulons, c'est un comportement qui soit à la fois responsable, transparent et proportionné de la part aussi bien des États exportateurs que des États importateurs.
Et dans le but de responsabiliser les acteurs du secteur, l'association Un homme, une arme organise dès demain, un colloque à Kinshasa sur le thème de la bonne gestion de la guerre.
Quelques nouvelles du front du Sud. Le bataillon d'assaut annonce son intention de reconquérir les territoires perdus le mois dernier. Nos troupes ont apparemment surmonté le retrait inopiné de leurs sponsors. Haliburton a en effet décidé de revoir sa politique de soutien aux armées en raison de retombées médiatiques et économiques insuffisantes. La marque se plaint notamment de la trop faible lisibilité de son logo sur les uniformes de camouflage. Un appel d'offres a été lancé pour trouver de nouveaux partenaires. En attendant, le moral est bon et le bataillon est prêt à reprendre la partie, comme le confirme le capitaine Dugout.
On a eu un début de saison assez difficile et pénible. Après ce chaos, il fallait se relever. On a mis un certain temps justement à se redresser. Et puis c'est vrai que depuis le mois de février, notamment cette victoire à Madrid, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose justement dans cette compétition. Au niveau du combat physique, on n'a pas peur. Et je peux vous dire que tous les samedis, on nous fait pas de cadeaux.
Enfin, suite aux plaintes incessantes de son voisinage qui s'était constitué en association, le dernier intellectuel déconnecté de la réalité a finalement été fixé au sol par une chape de béton. Le ministère des Travaux de Salubrité Publique se porte garant de la solidité de l'édifice, même par jour de grand vent.
Il est évident que de telles nouvelles ne sont pas positives. On s'en serait bien sûr passé. Simplement, ce que je crois comprendre, c'est que dans quelques années, il n'y aura plus rien.
En 2008, les gens se croisaient dans les airs, au volant de coléoptères, supersoniques mais silencieux. En 2008, il y avait des immeubles mous qui se transformaient tout à coup au gré des climats capricieux. En 2008, les couleurs étaient incroyables, d'ailleurs elles étaient innommables, on en parlait comme des dieux. En 2008, se regarder au fond des yeux, c'était comme faire l'amour à deux. 2008, c'était comme ça, en 1978. En 1978, moi j'étais un petit garçon qui rêvait de 2008 comme le plus beau des horizons. Je nous voyais en 2008 avec nos têtes colorées en bleu ou en orangé selon ce qu'on aura mangé. En 2008, les couleurs seront incroyables, d'ailleurs elles seront innommables, il n'y aura pas d'autre dieu. Dans la rue, on s'embrasserait, ce serait comme si on se connaissait. 2008, c'était comme ça, en 1978. 1978, ce sera comme ça. En 2008, ce sera comme ça. En 2008.
C'est une idée originale qu'a lancée le mois dernier le tour opérateur français Espace Aventure. Clan d'Autour vous propose de refaire le parcours d'un immigré africain tentant de rejoindre les côtes européennes depuis le Sahel. Notre envoyé spécial, Eugène Duchâteau, a suivi le périple de ces aventuriers modernes.
Dans la peau d'un immigré illégal, le concept est simple mais efficace. Tous les dimanches, les participants au Clan d'Autour partent en bus de Kidal au Mali, direction les côtes mauritaniennes. Arrêt buffet prévu dans les bidonvilles typiques pour découvrir les autochtones. Le tout dans une ambiance pour le moins conviviale.
Dans le bus, les animations, c'est sûr, c'est assez plaisant, c'est vraiment bon enfant. C'est vraiment l'occasion de découvrir des lieux, en fait.
L'accueil dans tous ces lieux a été très chaleureux. On est bien.
Arrivé à Nouadhibou, le joyeux groupe embarque sur une pirogue. Direction l'archipel espagnol des Canaries, Robert est à la barre, comme un vrai clandestin.
Robert, aux manettes. Alors attention, dès que le feu est vert, Robert, tu vas pouvoir mettre les gaz. Allons-y, c'est parti!
Chaque semaine, Clan d'Autour fait le plein de candidats à l'aventure, à tel point que la compagnie envisage d'ouvrir un autre circuit, en partant cette fois du Kurdistan.
Signalons toutefois cet incident survenu la semaine dernière. Une embarcation de Clan d'Autour a été torpillée par la marine espagnole qui l'a confondue avec une vraie pirogue de clandestins. La société affirme que les familles des victimes seront indemnisées. Société, gros succès pour le nouveau parc Aphrodisia de Vierzon. Pour sa première semaine d'activité, le nouveau fleuron de la chaîne de prostitution Discount a attiré près de 600 000 visiteurs. Une belle performance qui vient récompenser une excellente préparation en amont. Mais Marc Dussablon, gérant du parc Aphrodisia, n'entend pas s'endormir sur ses lauriers.
Première chose que l'on doit noter, c'est le niveau global de satisfaction très élevé de la part des usagers. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à trouver et des choses à approfondir. Et on se rend compte que de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'attentes importantes, prioritaires aux yeux des usagers, qui sont encore largement insatisfaites. Donc l'image est bonne, la satisfaction globale de l'usager est là, mais il y a encore matière à faire beaucoup d'efforts dans bien des domaines.
Oui, car même si c'est exceptionnel, quelques consommateurs repartent mécontents de leur séjour au parc Aphrodisia. C'est le cas de Nicolas, qui a souhaité garder l'anonymat. Au départ, une stupide erreur d'aiguillage l'a conduit dans la section gay passif. Et à l'arrivée, beaucoup de déception, une grosse colère et l'intention de porter plainte.
Il y a une manipulation, je veux savoir qui est derrière. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué à vouloir la vérité, alors qu'on a voulu salir. Si demain la justice devait découvrir qui était derrière cela, alors à ce moment-là, je pourrais en tirer des conséquences.
Et puis Tel Aviv a annoncé ce matin la création d'une nouvelle barrière de sécurité pour se protéger des attaques terroristes. Ce mur de 17 mètres de haut viendra s'intercaler entre les deux précédentes barrières qui entourent déjà la bandelette de Gaza. Le sport à présent avec un nouveau record du monde de saut à la perche. Le Palestinien Al Jafri a franchi hier la barre des 16,50 m. Belle récompense pour cet athlète qui s'est entraîné pendant des années chez lui à Gaza. Mais Al Jafri n'entend pas en rester là. Il a déjà annoncé vouloir passer la barre des 17 mètres.
La météo vous est présentée par les fours Krupp. Krupp pour une crémation de premier choix.
Les températures sont en légère baisse aujourd'hui, en raison notamment de l'harmattan qui va souffler sur la moitié sud du pays. On observera 42 à Lille, 43 à Paris. Les Strasbourgeois seront les mieux lotis avec 45 degrés dès la levée des fumées matinales. Attention tout de même à quelques pluies acides sur le massif central. Attention aussi à ceux qui se baignent sur les plages de Limoges. Un nouveau bloc de banquise s'est effondré dans la nuit et le tsunami de force 3 pourrait toucher les côtes limousines en milieu d'après-midi.
Voilà, merci à tous, merci à Boris, Guillaume, du journal du futur. Trois Gaillards, vous pouvez en savoir plus sur eux en vous rendant sur le site www.sousrealisme.org. Leur groupe s'appelle les Sousrealistes. www.sousrealisme.org et vous découvrirez qui sont ces drôle de personnage. Également merci à Daniel Schneiderman. Je rappelle le site de Schneiderman, c'est arrêt sur image avec des tirets, arrêt-sur-image.ero, H-E-R-A-U-T.E-U, ou bien sur le son Big Bang Blog, avec des points entre. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org, ainsi que des centaines d'autres numéros de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Christian Thibaudeau et Stéphanie Coulon. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale grâce au groupe d'intervention surréaliste, assisté de Charlotte Perry et Christophe Fimbert, se tient près du répondeur de là-bas si j'y suis, dans l'attente de vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.